Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cinéscopie sur RTF. Cinéscopie, votre magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du cinéma. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. Et bien, pour commencer cette émission, on va vous parler de l'actualité de la musique de film avec une mauvaise nouvelle. Nous venons d'apprendre en effet la disparition d'un compositeur de musique de film, c'est Jean Musy. Jean Musy qui est décédé samedi dernier. Alors Jean Musy qui est connu, on le connaît tous parce que il a écrit la musique de Papy fait de la résistance qui a été diffusée il n'y a pas bien longtemps, mais également la musique de Claire de Femme, un très beau film avec Romy Schneider. C'était un musicien vraiment très éclectique. Il était né en 1947 et il va découvrir l'orgamon et le jazz dès l'adolescence. Il va d'ailleurs rencontrer à ce moment-là François Droubet, qui va un petit peu, avec qui il va jouer, il va l'accompagner parfois. Et François Droubet va vraiment le lancer dans le métier dès l'âge de 14-15 ans. Voilà. À l'âge de 16 ans, Jean Musy rencontre Mickey Baker, guitariste américain, musicien de studio et arrangeur pour Johnny Hallyday. Et Mickey Baker va permettre à Jean Musy de devenir l'accompagnateur à ce moment-là de Nino Ferrer. Et donc pendant un an, il va faire des tournées avec Nino Ferrer et enregistrer l'album « Je voudrais être noir » dans un studio de Dijon. Et puis en 1968, Jean Musy est présenté à Joe Dassin et il va écrire l'arrangement d'une chanson désormais culte, « Les Champs-Élysées ». Donc voilà, et à partir de ce moment-là, Jean Musy va énormément travailler avec les artistes de la scène française, de très nombreuses collaborations avec Barbara, Yves Duteil, Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Dimet. Enfin, il a collaboré, je pense, avec tout le gratin quand même de la chanson française. Il a fait beaucoup d'arrangements pour ces artistes. Alors, en ce qui concerne la musique à l'image, Jean Musy rencontre notamment Francis Lai et il va écrire avec lui Bilitis, vous savez le film érotique de David Hamilton. Donc c'est Francis Lai qui écrit quand même les thèmes, mais tout ça sera arrangé par Jean Musy. De même, il va collaborer avec Francis Lai pour Les uns et les autres en 1980. Mais Jean Musy va lui-même écrire des musiques de films. Je vous parlais de Papy fait de la résistance, de Claire de Femme. Il travaille aussi pour la télévision et à la télévision, il fera des musiques pour Madame le Proviseur, Passeur d'enfants, Commissaire Moulin, et Pause Café avec comment s'appelle cette Véronique Jeannot. Voilà, Véronique Jeannot. Voilà. Donc au total, Jean Musy va écrire la musique de pratiquement 200 films, cinéma et télévision confondus. Voilà, donc avec de très très nombreuses collaborations. Mais on s'en souvient surtout, bien sûr, pour Pause Café, puis ce Papy fait de la résistance. En 2017, Jean Musy avait reçu le Grand Prix SACEM de la musique à l'image. Et donc c'est un grand monsieur quand même de la musique de film qui nous a quittés ce week-end. Alors Jean Musy restera de toute façon avec nous parce que on pourra écouter les musiques de ses films dans nos émissions, entre autres. Voilà, et puis au travers de ses arrangements pour ses très nombreux artistes de variété ou ses collaborations avec des compositeurs connus comme Francis Lai. Voilà, donc une actualité musique de film un petit peu triste, c'est vrai, pour commencer la semaine. Mais on va écouter peut-être de la musique pour commencer, mon cher Laurent. Bonsoir d'ailleurs, parce que je ne t'ai pas salué.
Bonsoir Chris, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que tu étais porteur d'une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que il va y avoir une deuxième mauvaise nouvelle,
là.
Entre autres avec la disparition d'un grand réalisateur français, Laurent Conté, qui nous a quittés récemment. Ce réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision, qui au passage quand même a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008 pour son film Entre les Murs. C'était pas son premier film, je crois, me semble-t-il, de mémoire, c'était Ressources humaines. Le premier film de Laurent Canté, très, je dirais, axé sur les relations humaines, parce qu'en fait, sa carrière, quand même, a été en filigrane le fil rouge, en fait, de la plupart de ses longs métrages.
Je me demande s'il n'a pas été prof, d'ailleurs, à une époque.
C'est possible.
C'est possible.
C'est possible. Et à savoir qu'un film étonnamment réussi, enfin en tout cas qu'on avait beaucoup aimé dans Cinéscopie, qui était une version, parce que après il y a Daniel Auteuil qui a joué un petit peu à partir du même un petit peu du même scénario. C'est L'Emploi du Temps qui racontait l'histoire de Vincent, qui est au chômage depuis plusieurs mois, mais qui n'avait rien dit à ses proches. Et donc, c'est un film dramatique, mais aussi un thriller psychologique assez haletant. Et je vous le conseille, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le découvrir, parce que c'est pas forcément un film qui est relativement fréquemment diffusé sur le petit écran. Donc, ça vaut vraiment le détour, parce que c'est un très bon film avec une très belle distribution, et je fais référence d'ailleurs à un acteur sur ce film qui est vraiment excellent, qu'on voit assez rarement, c'est Aurélien Recoin qui a le rôle titre, le rôle principal, aux côtés de Karine Viard. Et puis il y a la famille aussi Canté, parce qu'il y a Félix Canté, Marie Canté. Donc voilà, un petit hommage comme ça, parce que bon, c'est un scénariste majeur dans le cinéma français. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage, surtout qu'il travaillait en ce moment sur son dernier film. Donc je ne sais pas si il pourra être en fait terminé, parce que je crois qu'il était sur le point de, voilà, c'était plutôt sur la finalité de son long métrage. Donc on espère peut-être un jour le voir sur nos écrans. Voilà.
Très bien. Bien, merci Laurent pour cet hommage bien mérité, bien sûr, à Laurent Canté. Laurent Canté et Jean Muzyde, voilà, deux figures importantes du cinéma français qui nous ont quittés malheureusement ces derniers jours. On va commencer notre émission tout de même avec de la musique. On va y... Alors Laurent, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ouvrir cette émission ?
Eh bien, un film, un film fantasy, film d'action, mais musicalement, il y a un contraste quand même. Hein, on a choisi des extraits un petit peu plus, on va dire, assez calmes, mais vraiment d'une grande beauté, signé Marco Beltrami, pour ce film Gods of Egypt. Donc c'est un film de 2016, avec une belle distribution, hein, Gérard Butler déjà, hein, Nicolas Coster, Brenton Twaits, Elodie Young, Courtney Eaton, Chadwick Boseman et Emily Whitton. Voilà, pour un film qu'on avait bien aimé, je crois, dans Cinéscopie à l'époque.
Oui. C'est un film signé Alex Proyas.
Oui, tout à fait.
Signalons-le. C'est un film qui côtoie comme les sommets du kitsch, il faut bien le dire. Mais finalement, si on l'accepte, eh bien, on passe quand même un bon moment, parce que c'est quand même plutôt spectaculaire. Hein.
Oui, tout à fait. Alex Proyas, hein, à qui on doit...
The Crow The Crow et Dark City, semble-t-il.
Oui,
aussi.
Dark City, ouais, aussi. Qui était super. Et The Crow qui va être bientôt à l'affiche dans une très très belle édition. Je crois qu'il va sortir le mois prochain. Donc voilà.
On va surveiller ça.
Oui, on vous en parlera, bien sûr, forcément.
Alex Proyas qui avait également signé un très bon film sur la robotique, ça s'appelait iRobot, avec Will Smith.
Tout à fait.
C'était très réussi aussi. Ah bon, bah écoutez, Marco Beltrami dans ses œuvres. Alors là, moi, je trouve que c'est une des plus belles musiques de Marco Beltrami. Hein. Franchement, là, il a mis le paquet sur ce film. Hein,
C'est vrai. Alors, Marco Beltrami, qui est d'ailleurs d'actualité, parce que on m'en avait un petit peu parlé, nos amis de chez Music Box, qui viennent de rééditer... Enfin, pas de rééditer, parce qu'il n'est jamais sorti en support numérique. Il n'y avait qu'un vinyle à l'époque, à la sortie du film. C'est l'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel.
Dans le rôle de Vidocq, parce que...
Dans le rôle de Vidocq. Et donc, comme quoi... je crois que d'ailleurs à l'époque c'était déjà les débuts en fait de la descente aux enfers du support numérique, le CD, et donc Gaumont avait choisi de ne pas sortir sur ce support cette bande originale de film, seulement en vinyle, forcément on était excessivement déçus, parce que somme toute, c'est une belle partition que celle de Marco Beltrami. Oui. Donc,
on se l'est procuré depuis en CD.
Oui. Ouais. Donc c'est réparé, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. On espère que ce genre d'initiative sera de plus en plus fréquente, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement pauvre, et on espère toujours ça et là, et bien c'est des partitions qui soient rééditées ou éditées sur ce support, parce que bon, ça nous permet de vous les diffuser dans des conditions tout à fait optimales et non pas dans un format ultra compressé et qui ne fait pas du tout hommage à la qualité et la prestation des orchestres, et donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on essaye de privilégier quand même l'exclusivité, mais aussi la qualité. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. On essaye de promotionner largement la qualité musicale de tous ces compositeurs qui travaillent durement pour proposer une musique qui est de qualité. Voilà.
Eh bien, c'est le cas avec ce Gods of Egypt composé par Marco Beltrami.
Thank you.
rubrique vidéo.
Et oui, l'actualité de la vidéo en Blu-ray Steelbook, c'est sur Cinéscopie. Voilà, tous les lundis soirs. Alors, on va chacun vous présenter une petite sélection de sorties Blu-ray, des films qui sortent là, ces jours-ci, et voilà, qui ont retenu notre attention. Alors moi je commencerai tout d'abord par la réédition d'un film de guerre américain réalisé en 2000 par Jonathan Mostow, U571. C'est Studio Canal qui ressort ce film en 4K ultra haute définition. C'est un film qui nous entraîne pendant donc la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en 1942. Les États-Unis viennent d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Le capitaine Mike Dahlgren a le commandement du S-33, un sous-marin archaïque mais redoutable. Ce sous-marin va être maquillé en U-boat allemand afin d'accoster un submersible ennemi échoué et lui dérober sa machine à chiffrer permettant à la flotte allemande de rendre ses messages inviolables. Mais l'opération, évidemment, ne va pas tourner comme prévu. Voilà. Donc un film de sous-marin assez spectaculaire, d'ailleurs qui avait été assez remarqué à l'époque. C'était une des premières réalisations, en tout cas sur grand écran, de Jonathan Mostow, qui ensuite a tourné Terminator 3, me semble-t-il. Voilà, donc un film qui est vraiment intéressant de revoir 24 ans après, notamment pour sa distribution, parce que quand on regarde le casting, il est assez incroyable. On retrouve dans U571 Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, David Case, Thomas Kretschmann, Jack Weber et même Yon Bon Jovi. Donc voilà, une distribution superbe pour ce très bon film de guerre que je vous conseille, et je pense que dans cette version ultra UHD, ultra haute définition, c'est franchement à voir. Donc c'est Studio Canal qui vous le propose. Maintenant, restons dans les films historiques avec un film français réalisé l'année dernière par Vincent Pérez, Une affaire d'honneur. C'est un Blu-ray qui vous est proposé par Gaumont. Une affaire d'honneur nous entraîne à Paris en 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d'armes, se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre alors Marie-Rose Astier, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l'art complexe du duel. Voilà. Et bah, évidemment, ils vont faire face aux provocations et s'allier pour défendre leur honneur respectif. Voilà. Donc, un film qui était passé un petit peu inaperçu, que cette affaire d'honneur, mais que je vous recommande. Roche Dizem, Doria Tillier et Guillaume Gallienne sont à l'affiche de ce film. On y retrouve également Damien Bonnard.
Et je vous le recommande chaudement. Moi, je l'ai vu sur grand écran et vraiment, c'est un film très très intéressant. La place de la femme aussi dans un milieu extrêmement masculin.
Et oui.
Il y a aussi ce rapport-là. Donc,
ça, c'est intéressant.
C'est un film relativement dense et très instructif. Donc, franchement, ça vaut vraiment le détour.
Eh ben voilà, donc vous savez en plus, l'avis très positif de Laurent sur ce film Une affaire d'honneur. Alors un film français à nouveau, mais cette fois-ci un film d'horreur qui nous est proposé en UHD ultra haute définition par Tandem Film. Il s'agit de Vermine, réalisé par Sébastien Vanisek, l'histoire des habitants d'un immeuble qui vont devoir survivre à une invasion d'araignées. Alors évidemment, si vous êtes arachnophobe, c'est peut-être pas le film à voir. Ouais, ça dépend, peut-être pour lutter contre sa phobie.
Oui, mais enfin bon, après on n'est pas, enfin c'est pas arachnophobie quand même. Hein.
Voilà.
Même s'il y a des scènes, voilà. Où,
attention, ce sont de vraies araignées la plupart du temps.
Oui, c'est vrai. Le film démarre très très bien. J'avais pas mal aimé l'introduction.
Bien, ouais.
Par contre, où je mets vraiment un bémol, ouais, c'est la bande son.
La bande son, oui, je me souviens que tu n'avais pas vraiment apprécié.
C'est vraiment la catastrophe, quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, ce film, Vermine, c'est son titre, je le rappelle, a permis à Sébastien Vanisek de se faire remarquer, puisque apparemment il va tourner un spin-off de Evil Dead. Donc il va travailler pour un studio hollywoodien, c'est bien. Donc ce film vous est proposé donc en 4K. C'est un combo, hein, vous avez le 4K UHD du film, et puis le Blu-ray également. Et puis sur la bande son, vous avez quand même le commentaire audio du réalisateur, donc et de certains également de certains comédiens du film. Restons dans le cinéma de genre avec cette fois-ci un film coréen réalisé par Eom Tae-hwa. Ça s'appelle Concrete Utopia. C'est un Blu-ray qui nous est proposé par The Jokers. Comme c'est un film coréen, eh bien on est à Séoul. Séoul est frappé par un puissant tremblement de terre qui détruit toute la ville, à l'exception du palais impérial Wangung. Les survivants se tournent vers un officier et une infirmière pour tenter de surmonter la longue crise qui les attend. Voilà, donc comment peut-on survivre à une catastrophe comme un séisme majeur? C'est ce que raconte ce film coréen, Concrete Utopia. Un film où l'on retrouve Park Seon-joon et Lee Byung-hoon. Pas facile à dire, hein, voilà. Mais bon, je vous conseille ce film coréen, ce film catastrophe assez réussi. Restons dans le cinéma asiatique avec cette fois-ci un film de Kinji Fukasaku. Alors lui, c'est un cinéaste complètement fou. C'est un mediabook que Roboto Film nous propose. Le film s'intitule « Violente panique, The Big Crash ». Donc un film tourné au Japon en 1976. C'est l'histoire de Takashi et Mitsuo, qui sont deux braqueurs de banque. Ils préparent un dernier coup avant de s'enfuir au Brésil, mais la police les guette. Et puis en plus, Takashi croise la belle Miki. Les choses ne tourneront donc pas comme prévu, on s'en doute. Voilà, un film limité à 1000 exemplaires. C'est un mediabook, hein. C'est un mediabook limité à 1000 exemplaires avec le Blu-ray du film, le DVD et puis un livret. Très intéressant avec pas mal d'infos écrites par des journalistes, des spécialistes du cinéma asiatique. Dans les bonus également, on trouvera Jean-François Roger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française et qui est un fervent défenseur du cinéma de genre. Un entretien également avec Stéphane Duménildo, journaliste et expert du cinéma asiatique. Voilà, donc un coffret assez complet concernant ce film, Violent Panic, The Big Crash. Et c'est une façon de découvrir aussi ce cinéaste japonais, Kinji Fukasaku. Voilà, un polar que je vous recommande. Et puis, peut-être que tu en parleras peut-être un petit peu plus précisément, une trilogie voit le jour dans de très beaux coffrets steelbook. C'est la trilogie Ocean's 12. Alors, il y a Ocean's 12, 11 et Ocean's 13, voilà. Alors c'est Steven Soderbergh, hein, qui a lancé cette franchise avec George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia. Voilà, on est dans le film de braquage. Voilà, donc mes recommandations pour aujourd'hui, mon cher Laurent, je te laisse le micro.
Très bien. Eh bien, moi je vais vous parler parce que on vous l'a déjà annoncé de façon un petit peu récurrente, hein. Vous savez que le marché de la vidéo physique a tendance quand même à s'écrouler. Il y a quand même quelques oasis, ça et là, et en particulier sur le cinéma de genre. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi sur le cinéma de genre, le support physique tient encore la distance? Tout simplement parce que les plateformes de vidéo à la demande, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire les films où il n'y a pas véritablement de distribution célèbre, où les réalisateurs ne sont pas vraiment très connus, ils les délaissent, et donc ça laisse véritablement une ouverture pour, je dirais, les éditeurs qui veulent se lancer dans ce créneau-là. Et on peut féliciter un nouvel éditeur qui s'intitule Roboto Film. Et l'objectif de cet éditeur, c'est le cinéma japonais.
Justement, le film dont je viens de parler, Violente Panique, c'est Roboto Film qui nous le propose.
Et oui.
Alors bravo à ce label.
Un inconditionnel, un quadragénaire ça faisait un petit moment qu'il voulait se lancer. Et donc là, pour le coup, il va se lancer sa politique éditoriale avec un réalisateur, Kinji Fukasaku, pardon, un cinéaste extrêmement prolifique.
Ah oui, il a fait des films délirants.
Voilà, dont la carrière court sur 40 années, donc pour vous dire que voilà, il y a quand même matière, mais dont très peu de films existent à ce jour en vidéo. Et donc en travaillant directement avec le studio Toei, eh bien Robotofilm va inaugurer son programme éditorial avec deux pépites des années 70, donc on en a parlé d'une. Et tout d'abord, le film de Sabre, Shogun's Samurai, qui est en fait une valeur sûre, où se côtoient rien moins que les superstars Toshiro Mifume, Sonny Chiba et Hiroyuki Sanada, qui a bénéficié d'une restauration 4K. Donc, la pépite méconnu au titre prometteur, donc qui n'est autre que Violente Panique, ce Big Crash, un film de braquage totalement inédit,
parce qu'en fait c'est ça,
oui. Voilà, donc c'est ce qui fait que forcément il y a une curiosité des spectateurs pour en fait ce genre de programme, parce que en plus c'est pas, on va dire, le programme une série B, c'est véritablement du grand cinéma.
Oui, et puis tu parlais du film de Ninja là, dans Shogun Samurai, pardon, avec quand même des acteurs incontournables du cinéma japonais, Toshiro Mifune qui était la star des Sept Mercenaires, des Sept Samouraïs, d'Akira Kurosawa, de Rashomon également. Donc c'est vrai que c'est une méga star au Japon. Voilà, donc formidable.
Et donc, tous ces films, donc en HD, seront accompagnés de nombreux bonus avec des entretiens avec des spécialistes et programmateurs, bandes-annonces exclusives, livrées avec essais et photos, spécifiquement produits pour l'occasion. Et donc, les titres qui inaugureront deux collections identifiables grâce à un code couleur sur la tranche, beige pour la classique et rouge pour la gangster. Et donc, seront disponibles fin avril, donc ça devrait pas tarder à sortir.
C'est là, oui.
Voilà, au format Mediabook, donc il y aura un combo. Mais forcément, dans toutes ces éditions limitées à 1000 exemplaires chacun. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse sur le DVD, car les milieux institutionnels, médiathèques et universités fonctionnent toujours avec ce format. Et donc, on va dire que, franchement, ça reste vraiment très, très intéressant. Alors, où se procurer? Parce que c'est pas facile à trouver. Essentiellement, sur le site
de
Robotofilm.
Ouais.
Et en sachant que vous avez le nombre d'exemplaires, donc ça peut vous donner la pression quand même, parce que
c'est pas mal, parce qu'on sait où on en est déjà.
Voilà. Donc je crois qu'on a passé la moitié des exemplaires déjà vendus
pour les deux titres.
Je crois, me semble-t-il.
Il faut se dépêcher.
Je crois que il me semble qu'on est à peu près à 400 copies disponibles, peut-être un petit peu plus.
C'est bien pour ce label, hein, parce que ça marche.
Oui, ça marche. Et vous avez aussi la possibilité de faire un bundle, donc d'acheter les deux titres si ça vous intéresse.
À prix préférentiel, peut-être?
Pas vraiment. En fait, il n'y a pas véritablement de tarif préférentiel.
D'accord.
Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Là par contre, la disponibilité est moins importante, parce qu'on est en dessous des 50 copies, donc offres. Donc,
50 offres, effectivement.
Voilà. Donc vous avez en fait le choix. Donc franchement, ça vaut le détour, parce que c'est vrai, dans un contexte un petit peu morose, un petit peu atone aussi, hein, parce que, somme toute, même si on vous parle véritablement de nouveautés, il y a quand même aussi le lot de rééditions, peut-être qui marque aussi une certaine lassitude des éditeurs, peut-être une difficulté à trouver aussi des nouveautés, parce que on vous cache pas que chaque éditeur a déjà acheté, mis, a mis les mains sur les droits en fait de chaque programme, et donc c'est très difficile, je dirais, de trouver de la nouveauté en fait, à part si tel ou tel film passe dans le domaine public ou alors là pour le coup d'autres éditeurs peuvent rééditer certains films, mais c'est extrêmement dur et concurrentiel. Donc forcément, c'est un petit peu difficile. Donc voilà un petit peu pour donc cet éditeur, et on lui souhaite énormément de chance parce que et de vraiment de bonheur et de plaisir de pouvoir continuer à éditer, parce que oui. C'est pas facile, et comme on vous l'a expliqué, donc dans avec ces contraintes qui sont quand même majeures. Donc j'espère que voilà l'impulsion donné par cet éditeur, ben se confirmera sur le moyen et long terme.
Ben surtout avec ces deux titres, je trouve que c'est une bonne façon de commencer avec ce film de samouraï et ce film de gangster. Donc ouais, on va se précipiter parce que je vois que les exemplaires, c'est en train de fondre hein, comme neige au soleil.
Et oui. Un autre film qui est annoncé, hein, qui va pas tarder à sortir sur le mois de mai. On l'avait vu, mais ça remonte un petit moment quand même. Hein. Film qui a reçu la Palme d'Or ex aequo avec donc en 1993, donc ça remonte un petit peu, avec La Leçon de piano. Alors quel est le film a reçu donc cette Palme d'Or ex aequo avec La Leçon de piano de Jane Campion. Alors la distribution, ça peut-être vous aider.
Parce que là je sèche un peu. Hein.
Nous avons Leslie Cheung, Gong Li. Et donc ce film a été restauré en 4K et sortira précisément le 21 mai chez Carlotta. En Ultra HD, enfin combo Ultra HD plus Blu-ray, plus Blu-ray avec des pistes sonores, donc en VF et version originale, sous-titrée, DTS, et un making-of et un jeu de photos.
Alors, est-ce que ça ne serait pas In the Mood for Love ?
Pas du tout.
Ah ben voilà.
D'ailleurs, le film, me semble-t-il...
Mais d'ailleurs, parce que oui, je ne pensais pas qu'il avait eu la Palme d'Or, mais enfin bon...
Alors le film, c'est un film de Chen Cage...
Adieu ma concubine.
Adieu ma concubine.
Ah d'accord.
Voilà. Donc oui. Qui alors j'ai le facing, enfin la jaquette sous les yeux, elle est superbe.
Ouais.
Franchement, ouais. Hein, ça donne vraiment envie. Moi en tout cas de mémoire le film m'avait assez impressionné. Mmh. C'est intéressant de le redécouvrir en très haute définition parce que c'est un film excessivement coloré, donc ça se prête quand même à vraiment de la très haute définition. Début mai, donc ça ne saurait tarder, le 3 mai pour être exact.
C'est vendredi.
Et oui, un film de 1991 qui, me semble-t-il, a été peut-être déjà paru en édition simple, en Blu-ray. C'est Metropolitan, là, qui va vous le proposer, donc, en très haute définition, version, enfin, en combo, hein, avec le Blu-ray qui l'accompagne. Nouveau master restauré, pour ce film de 1991 et de David Cronenberg.
Alors attention, parce que là, j'avoue que 91, je sèche. Ça serait pas un crash, non ?
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Décidément.
Alors, c'est le Festin nu.
Ah oui, le Festin nu.
Qui
oui.
va débarquer donc, dans cette version combo avec un making-of de 1992, qui fait quand même pas tout à fait une heure, donc c'est assez intéressant. Et aussi un livret d'une soixantaine de pages, donc c'est peut-être un petit livre, on va dire, hein, quand même, parce
oui,
que 60
c'est
pages c'est déjà pas mal,
ça commence à être intéressant, ouais.
Voilà, on le doit donc à Metropolitan, et donc c'est le 3 mai. Ensuite l'éditeur qu'on affectionne particulièrement parce que c'est quand même l'éditeur de référence du patrimoine du cinéma français, c'est Coin de Mire. Donc, il prépare une belle affiche DVD et Blu-ray pour les prochains mois, avec donc au mois de mai Une Robe Noire pour un Tueur, réalisé en 81. Retour de Manivelle de 1957. Les Amants de Bramore 1951. Et Sois belle et tais-toi 1958. Donc ça, il y a quand même une belle salve là au mois de mai. Puis au mois de juin, eh bien nous aurons un film Monsieur de 1964, me semble-t-il, c'est avec Jean Gabin entre autres. Le Tonnerre de Dieu 1965. Le Diable par la queue 1969 avec Yves Montand. Et La loi c'est la loi 1958. Donc ça sera les deux salves. Les prochaines salves seront après pour le mois d'octobre chez Coin de Mire. Donc voilà, donc ça, il y a un beau programme en tout cas, très assez éclectique. Franchement,
ça donne envie. Hein.
Ah ben ça donne envie. Ben les, un petit peu ça s'affole parce que les mois les plus prolifiques en sortie sont entre autres le mois de juin, le mois de septembre et bien sûr les fêtes de fin d'année, mais souvent c'est souvent des, alors pas des rééditions mais des éditions coffrets où on retrouve très souvent des titres à l'unité qui sont qui ont été rassemblés soit sur des thématiques particulières soit sur on va dire des intégrales et puis n'oublions pas chez Elephant qui ça va pas tarder à sortir. Vous aviez pour les fêtes de fin d'année pu retrouver Jim Austin avec L'homme qui valait 3 milliards. Eh bien, vous aurez Super Jamie. Voilà, qui va sortir chez l'éditeur, notre éditeur français Elephant, dans une intégrale, donc en haute définition Blu-ray. Hein, ben, il n'y aura pas de, par contre, du HD. Mais bon, voilà, ça le mérite, je dirais, d'exister. Et alors, on parlait un petit peu de l'import, Chris.
Ah, mais c'est une bonne nouvelle, oui. Moi, je veux bien l'import parce qu'il y a toujours des choses intéressantes.
Alors, on va parler de nos amis Aurore Deluxe, l'éditeur américain, Séverine Film, qui se spécialise de plus en plus en dehors de ses coffrets dans la luxueuse réédition de films bis du cinéma fantastique en UHD, BD et Blu-ray. Ce sera ainsi le cas en mai avec la sortie dans une version combo Ultra HD plus Blu-ray d'un thriller horrifique du début des années 80. C'est Butcher, Baker, Nightmare Maker à la limite du cauchemar et du très sexy The Devil's Honey, donc le miel du diable de Lucio Fulci.
Oui, alors qui était déjà paru chez 88 Films et en France, c'est chez Artus Film, je sais, je crois.
Je l'assurerai pas, mais
je sais plus.
Possible,
hein, c'est un de ses éditeurs, mais Le Miel du Diable, qui est un des derniers films de Lucio Fulci, oui d'ailleurs, un film érotique, mais qui est plutôt, qui est intéressant. Moi, je sais que j'avais pas détesté ce film.
Ouais. Et puis n'oublions pas, parce que bon, il faut quand même parler un petit peu d'Alligator. Eh bien, nous aurons The Great Alligator de Sergio Martino avec Barbara Bach et du thriller fantastique canadien Cathy Skurs, une si gentille petite fille présentée ici dans sa version cinéma et director's cut restaurée en 4K d'après le négatif original. Et donc les trois films seront accompagnés de nombreux suppléments comme des interviews inédites pour un total d'environ 2 heures pour chacun. Donc c'est vraiment très très intéressant.
Mais c'est vrai que chez Séverine Film, ils font très très bien les choses. Voilà, ça c'est les Américains, mais Arrow Film aussi nous propose souvent des coffrets assez passionnants.
Et oui, alors si tu parles de Arrow, ben, on va parler de Arrow.
Il a de la suite dans les idées.
Voilà. Donc chez Arrow, par contre, le programme est très très chargé au mois de mai. Et donc chez nos amis anglais, tout d'abord avec une exclue du marché US, le Narc de Joe Carnahan avec Ray Liotta et Jason Patric.
Excellent film.
C'est un super film noir. Hein,
ah oui.
Qui aura donc les honneurs d'une édition collector Ultra HD et Blu-ray d'après une toute nouvelle restauration 4K. Et donc suivront Night Falls, Manhattan, dans l'ombre de Manhattan, de Sidney Lumet, avec Andy Garcia. Donc ça, ça sera en Blu-ray. Et nous aurons aussi le nouveau film de Kanks, qui est Pandemonium. Après tous les dieux du ciel, et une édition ultra HD et Blu-ray de l'excellent polar britannique The Long Good Friday, raquette du sang sur la Tamise, avec Bob Hoskins, sans oublier donc une édition ultra HD uniquement du très sous-estimé Crimson Peak de Guillermo del Toro, donc accompagné de nombreux suppléments et d'un écrin collector limité et d'un livre de d'une quatre-vingtaine de pages.
Ouh là là là. Alors là, Crimson Peak, il est pour moi, parce que j'ai adoré ce film. J'adore de toute façon Guillermo del Toro. La musique était de Fernando Velasquez. L'image, ça déchire, on en prend plein les mirettes. Et alors là, je pense que dans cette version Arrow Film, ça va être un plaisir de tous les instants. Je me délecte d'avance.
Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il y a d'autres éditeurs à l'import, mais bon, on en parlera la semaine prochaine.
Bah écoute, pourquoi pas. Bah écoute, ce sera avec plaisir, surtout pour nous annoncer comme voilà que des sorties aussi formidables, hein, parce que c'est vrai que Crimson Peak, voilà, je vous recommande. Alors même si c'est en anglais, hein, mais je pense qu'il y a dû y avoir aussi des sous-titres en anglais. Bon, ça peut aider.
Oui, là j'ai pas la précision exacte voilà, mais à l'occasion, on vous tiendra informé des petites spécificités de toutes ces éditions à l'import.
Très bien, et bien on va repasser à la musique. Moi j'en termine simplement pour vous dire que Mad Movies vient de sortir son hors-série consacré au diable. Ça s'appelle Au nom du diable, et voilà, c'est un hors-série dans la collection Mad Movies classique. Et pourquoi je vous en parle? Parce que il y a la version magazine simple, mais aussi accompagnée d'un DVD. Et le DVD, c'est un film de 1922, Aksan, un film réalisé par Benjamin Christensen, une coproduction entre la Suède et le Danemark, et qui est en fait une histoire de la sorcellerie à travers les âges. Alors c'est, voilà, c'est un film muet, mais mis en musique quand même. Il y a un accompagnement musical et un commentaire en voix off, et avec, il y a quand même des images tout à fait stupéfiantes pour ce film donc de 1922. Donc je vous recommande l'achat de ce hors-série de Mad Movies consacré au diable, accompagné de son DVD. Mon cher Laurent, petite pause musicale.
Oui, avec ce témoignage à Jean Mussy pour un film. Alors, on a choisi de façon, je dirais, un petit peu arbitraire, hein, mais un polar de Jean-Claude Brissot avec, entre autres, Michel Piccoli, Tchéky Cario, Silvertan.
Ah oui.
Philippe Torton, c'est l'Ange Noir.
Oui, l'Ange Noir. Et en voyant le film, je me disais que Sylvie Vartan, elle aurait pu faire une belle carrière au cinéma, finalement. Oui, ça, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas, pas fait davantage.
Ouais, bah oui. Et là, pour le coup, pièce relativement classique. Alors, Jean Mussy, il y a aussi ce côté. Alors, bien sûr, on reconnaît la patte française, mais aussi une belle nostalgie dans ses compositions qui font penser un petit peu à Delru aussi. Hein, c'est un petit peu dans le même courant musical. Là, radicalement, c'est très classique, hein, mais voilà, il y a une qualité d'interprétation, d'orchestration aussi magnifique. Mmh. On part pour 8 minutes de musique, mais vraiment une très très belle pièce pour cet Ange Noir. Ça s'intitule d'ailleurs
il a oublié ses lunettes.
Il chiore ad olorato.
C'est pas mal, mais petits progrès à faire en italien. En coréen, en japonais, c'est très bien.
J'ai beaucoup travaillé l'asiatique. Vous l'avez certainement remarqué. Il faut dire que les films de la semaine ou la vidéo me sollicitent quand même pas mal sur ce domaine-là.
Sur ce terrain, en effet. En tout cas, c'est vrai que ce passage musical est sublime.
Très bien. Donc, on écoute cela, 8 minutes avec Jean Mussy, et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Donc, tout de suite, L'Ange Noir.
più di io. Pietà,
les films de la semaine, ce soir.
Eh bien ce soir, Le Mangeur d'âme de Julien Maury et Alexandre Bustillo, Le Déserteur, film israélien de Danny Rosenberg, Première Affaire, bon, je ne sais plus d'ailleurs qui a réalisé, je crois que c'est un premier film, et Borgo de Stéphane de Moustier avec Afsia Herzi. Oui, Première Affaire, il me semble que c'est un premier long métrage, mais Laurent vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors on va vous parler tout d'abord du film de Julien Maury et Alexandre Bustillo, Le Mangeur d'âme. Voilà, un thriller qui vient de sortir sur nos écrans, avec dans les rôles principaux Virginie Ledoyen, Paul Amy et Sandrine Bonner. Voilà, un très beau casting pour ce film qui nous entraîne dans les Vosges. L'histoire, c'est l'histoire d'une commandante de police interprétée par Virginie Ledoyen qui enquête sur une série de meurtres violents dans les Vosges, et concomitamment, un capitaine de gendarmerie lui mène une enquête sur des disparitions inquiétantes d'enfants qui se sont produites dans la région. Et en fait, finalement, on s'en doute d'ailleurs, les deux enquêtes vont rapidement se raccorder. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, hein, je vais pas vous spoiler quand même l'intrigue. On est dans un thriller un petit peu à la manière des Rivières Pourpres, pour son ambiance un petit peu glauque, malsaine, dans des paysages assez magnifiques. D'ailleurs, c'est tourné dans l'Est de la France, dans les Vosges, et c'est filmé en scope. D'ailleurs, je salue vraiment le travail du chef opérateur, parce que là, vraiment, on a vraiment un très beau travail sur l'image du film. Voilà. Donc, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal, quand même, cette histoire, je dois dire. plutôt apprécié le déroulement du film, même si peut-être à la fin, ils en rajoutent peut-être un petit peu beaucoup. Bon, alors après, je n'ai pas lu le roman. C'est vrai que le roman, à la base, il y a un roman. Donc, je ne sais pas si beaucoup de libertés ont été prises, finalement, par rapport au roman originel. Voilà, en tout cas, Le Mangeur d'âme, c'est pour moi plutôt une bonne surprise. Alors, j'ai quand même été aussi surpris, mais à vrai dire, par la mise en scène. Parce qu'on a quand même une mise en scène, finalement, j'allais dire académique, en tout cas assez classique. Je m'attendais à quelque chose finalement de peut-être de plus ouf, en quelque sorte, de la part de ces deux réalisateurs qui sont des fans. Ce sont vraiment des fans de cinéma de genre. Ils avaient tourné il y a quelques années le film À l'intérieur avec Béatrice Dalle et Alison Paradis dans les rôles principaux, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'actualité Blu-ray DVD, hein, puisque le film ressort actuellement, et c'était assez trash. Donc on retrouve heureusement quand même dans le film des moments quand même assez gore, assez trash, et justement ça fait justement cette dimension glauque fait aussi l'intérêt du film, parce que quand même Le film, du coup, je suis là où je mets le bémol. De par son scénario, on pense quand même évidemment aux Rivières Pourpres, mais vous savez, on pense aussi à cette série qui passe sur la troisième chaîne, sur France 3, Les Meurtres A. Alors, meurtre en Limousin, meurtre en Corrèze, meurtre dans les Pyrénées, et là, ça serait meurtre dans les Vosges. Hein, il y a ça sera un petit peu un mix de Meurtre A et des Rivières Pourpres. Là, je suis un petit peu vache, hein, tu vois, pour le film.
Ça veut dire qu'en fait, le format serait assez télévisuel comme.
Alors non, parce que finalement, là, ils s'en sortent parce qu'ils ont d'abord tourné en scope. Donc, si tu veux, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'image était vraiment une image de cinéma et ce qui également permet au film de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est son insistance parfois sur des aspects un petit peu pervers, un peu glauques, hein, de l'histoire. Et d'ailleurs, le film globalement, comme je le dis, parce que les spectateurs qui nous écoutent pourraient penser que c'est un film d'horreur, en fait, pas du tout, parce que quand même les scènes les plus choquantes ne sont hors champ, on ne les voit pas. Donc, on voit plutôt le résultat de ce qui s'est passé. Donc on a quand même une intrigue que je trouve plutôt intéressante globalement, plutôt bien filmée, avec des acteurs assez convaincants. Moi, j'ai trouvé Virginie Ledoyen formidable. Et en voyant le film, je me disais finalement, mais tiens, moi j'aimerais bien revoir Virginie Ledoyen dans une autre enquête, de revenir finalement d'un personnage qui pourrait être comme ça récurrent. Alors elle forme également un duo assez intéressant avec Paul Amy, moi c'est un acteur que je connais pas très très bien et que j'ai trouvé assez charismatique, même si je ne l'ai pas toujours trouvé convaincant en termes de jeu. Alors j'ai lu par-ci par-là que les réalisateurs n'avaient pas très bien su diriger leurs comédiens. Moi je suis pas trop d'accord, mais c'est vrai que concernant Paul Amy, voilà, j'ai pas été forcément convaincu. Virginie Ledoyen, toujours impeccable, de même que Sandrine Monner et d'autres comédiens dans le film. Donc Le Mangeur d'âme, on va dire, c'est plutôt une bonne surprise, parce que j'avais quand même lu des critiques assez mitigées, pour ne pas dire assez mauvaises, sur ce film. Mais en fait, moi, j'ai passé un bon moment. Ça dure 1h50 et j'ai passé franchement un bon moment. Peut-être le final, un petit peu too much, dans les rebondissements, mais bon. Mais globalement, allez voir Le Mangeur d'âme. Il y a un vrai climat. Les acteurs sont assez séduisants. Donc, franchement, vous allez passer 1h50 assez sympathique. Mon cher Laurent, on va changer de sujet. On va passer à. De quoi veux-tu parler, Vivre et
Vivre ? Écoute, on va parler d'un film français de Stéphane Demoutier, Borgo. On va rester dans le registre du thriller, c'est un petit peu différent quand même. Mais Stéphane Demoutier, c'est quand même une surprise, parce que déjà Il avait fait un film remarquable, un film de procès. Peut-être que tu l'avais vu, c'est La fille au bracelet rouge.
Je ne l'avais pas vu, mais j'en avais entendu parler.
Il n'était pas rouge d'ailleurs, c'est La fille au bracelet, pardon. Et qui est passé assez inaperçu malgré tout, même si il y a eu quand même une petite effervescence. Au passage, quand même, le film a récolté un César, la meilleure adaptation. Et donc, Stéphane de Moutier a décidé de passer par la case prison. Et pour cela, il met le cap sur la Corse, avec comme héroïne une surveillante pénitentiaire jouée par Afsia Herzi, une fois encore impressionnante dans la foulée de sa nomination au César 2024 pour Le Ravissement, et donc tout juste nommée dans un établissement à régime ouvert sur l'île de Beauté, et qui va, au fil des rencontres qu'elle y fait avec divers détenus à l'intérieur et hors des murs, flirter de plus en plus dangereusement avec le milieu du banditisme local. Donc on retrouve ici tout ce qui a fait la réussite de La fille au bracelet, un récit inspiré par des faits réels, documenté avec soin, mais qui fait la part belle au romanesque. Et donc, faisant un sort au cliché habituel sur la Corse, eh bien Stéphane de Moutier signe un signe à la tension sourde, où il rend sans cesse crédible et prenante la lente descente aux enfers de cette matone, peu à peu dépassée d'ailleurs par les services de plus en plus importants qu'on lui demande, et ce grâce à une gestion parfaite de la durée, où les 2 heures pendant lesquelles se déploie son intrigue ne souffrent d'aucun temps mort, sans pour autant jamais céder à la moindre précipitation. C'est vraiment une mécanique bien huilée et comme une sorte de métronome, c'est-à-dire qu'en fait c'est inéluctable, et donc cette descente aux enfers, elle est progressive, et on est emporté d'ailleurs dans cette histoire, et on ne sait pas comment l'héroïne va pouvoir s'en sortir. Mais aussi et surtout, il y a un scénario qui est très audacieux, qui joue à la fois avec les points de vue sur la situation, sur la temporalité aussi des actions, vraiment dans une fluidité assez impressionnante au niveau de l'histoire. Un grand film. Moi, j'ai vraiment adoré. On est en plus très proche de... C'est un film ultra réaliste, presque documentaire. Et franchement, on accompagne cette matone. On a vraiment de l'empathie pour son personnage. Franchement, c'est vraiment une très très grande réussite de Stéphane de Moutier. Honnêtement, moi j'avais vu La fille au bracelet, mais là vraiment on a passé la vitesse supérieure, même si le film c'est pas un film d'action, c'est un film d'ambiance, d'atmosphère, mais aussi avec une histoire extrêmement écrite et travailler. Donc franchement, c'est vraiment un film à voir.
Ça s'appelle donc Borgo, avec Afsia Herzi dans le rôle principal. On vous le recommande, franchement, c'est le film à voir cette semaine. Et bien maintenant, un film israélien réalisé par Danny Rosenberg. Ça s'appelle Le Déserteur, histoire d'un jeune soldat qui fuit le théâtre des combats dans la bande de Gaza pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Oui, ça, c'est finalement le portrait de ce soldat israélien de 18 ans et qui donc va quitter finalement le théâtre des combats. Et c'est un film qui est assez intéressant parce qu'en fait il fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement. Et ce qui est surprenant, c'est que ce film a été tourné avant les événements du 7 octobre dernier. Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer que les combats qui font rage au début du film sont effectivement des scènes qui ont été tournées directement dans la bande de Gaza, dans ce qui se passe actuellement, hein, parce que voilà, on est vraiment dans cette configuration-là. Donc voilà notre jeune soldat donc qui part comme ça pour Tel Aviv pour rejoindre sa fiancée. Et là on a c'est assez intéressant parce qu'effectivement il y a un côté un peu documentaire dans le parcours de ce jeune homme, parce que on arrive dans un Tel Aviv où les gens continuent de vivre comme si de rien n'était, hein. C'est un petit peu comme la Riviera chez nous, là, Tel Aviv. Les gens vont à la plage, vont manger au restaurant, etc. Et puis, bah, tout d'un coup, les sirènes retentissent et on voit des roquettes déchirer le ciel de Tel Aviv, et ces roquettes qui sont interceptées par le fameux bouclier anti-missile, hein, mis en place par Israël. Et d'ailleurs, une très belle scène où on voit le héros aller se nettoyer en prenant un bain dans la mer, et on voit à ce moment-là justement tous ces missiles interceptés, explosés autour au-dessus de lui. Et d'ailleurs, c'est une scène qui fait écho. Je pense que c'est volontaire au film Vals avec Bachir, hein, parce qu'il y a une scène un petit peu similaire dans Vals avec Bachir. Voilà. Donc là, on n'est pas dans un dessin animé, hein, on est vraiment voilà dans cette histoire-là. Et donc ce personnage va croiser d'autres personnes qui vont constamment le mettre en porte-à-faux en quelque sorte, parce que lui il veut échapper à la guerre. Finalement, ce jeune Israélien, c'est un petit peu la métaphore de la jeunesse israélienne qui voudrait vivre en paix finalement, qui est fatigué par toutes ces décennies de conflits avec les Palestiniens, et qui aspire peut-être à autre chose, et donc lui veut échapper à la guerre, mais voilà, il rencontre des personnages qui disent mais tu ferais mieux d'être ailleurs, tu ferais mieux au lieu d'être ici, tu ferais mieux d'aller nous défendre, voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Alors par contre, ce que j'ai trouvé un petit peu moins réussi, si tu veux, c'est quand même le côté. Moi, je m'attendais, d'après ce que j'avais lu à droite à gauche, à un parcours. J'avais lu parcours tragicomique, avec même des séquences proches du burlesque. Ben, il y a bien des scènes comme ça qui prêtent à sourire parfois, mais de parler de burlesque, non. On est quand même plus dans le tragique que dans le comique, quand même. Même s'il y a des scènes où il y a pas mal de décalage, hein, donc ça fonctionne, mais globalement, je m'attendais comme sur un sujet comme ça à un traitement peut-être encore plus en décalage, peut-être quelque chose de plus déjanté d'une certaine façon, hein, voilà. Alors c'est dommage parce que quand même le film est quand même plutôt bien mis en scène, très bien interprété globalement par l'ensemble du casting et par ce jeune homme d'ailleurs qui s'appelle Ido Taco, c'est lui qui joue le rôle principal. Il est assez charismatique. Je pense qu'on le reverra parce qu'en plus il a vraiment une belle gueule, hein. Je pense que c'est un acteur qu'on reverra très très certainement. Il y a de beaux moments dans le film, franchement. Mais voilà, petite déception. Voilà, je m'attendais peut-être à autre chose. Voilà, c'est pas forcément le film que j'attendais. C'est un peu ça, mais pas totalement. Donc, il a pas poussé les curseurs jusqu'au bout. C'est un peu dommage. Alors, le film devient intéressant surtout au moment où le Tsahal suspecte le Hamas d'avoir enlevé le jeune soldat. Et alors là, on peut se dire, tiens, là, on va entrer dans une spirale supplémentaire. Et tu parlais de descente aux enfers, on serait un peu là dans une descente aux enfers. Donc il y a un peu de ça, mais voilà, ça, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, le film est intéressant. Franchement, il est très en prise évidemment avec ce qui se passe actuellement. Et le film reste à voir, même si j'aurais souhaité moi personnellement un petit peu plus de folie, un peu à la manière peut-être de certains films italiens des années 70, d'Elio Petri par exemple, allant peut-être même jusqu'à l'absurde, mais en l'état quand même c'est un film plutôt plaisant et qu'on peut découvrir. Il y a une belle photo en plus, c'est plutôt les personnages sont quand même attachants. Ça s'appelle Le Déserteur, c'est Danny Rosenberg et ça passe aux écrans au centre. On va changer de sujet, quoique on va rester dans le domaine, peut-être pas du thriller, mais dans le domaine de la justice, avec un premier film qui s'appelle « Première affaire », me semble-t-il.
Oui, « Première affaire » de Victoria Musilac, avec Noé Habitat, Anders Danielsen, Alexis Naïs et aussi une apparition assez remarquée de François Morel. Voilà. L'histoire, lorsque Nora, qui sort de boîte au petit matin, eh bien, son patron l'appelle, eh bien, elle répond et se retrouve envoyée sur sa première garde à vue. Ce sera bien sûr sa première affaire, d'où le titre du film. Les débuts de la jeune avocate, interprétée par Noé Habitat, très crédule et encore inexpérimentée, sont laborieux. Et pas besoin d'avoir passé le barreau pour la voir commettre des fautes, se faire manipuler par un policier, bref, être une pénible et mauvaise avocate. Mais à partir de cette accusation d'homicide qui pèse sur un jeune homme à peine majeur, le film finit par tisser un discours non dénué de finesse, d'ailleurs, sur la justice et les idéaux que ces praticiens projettent en elle. Là, la belle interprétation de Noé Habitat fait parfois penser à l'héroïne du récent La Vénus d'Argent. Elle aussi jeune et ambitieuse, et les deux films d'ailleurs parlent avant tout des valeurs profondes de ces jeunes femmes, c'est-à-dire la place en fait de ces jeunes femmes au sein quand même, là encore, d'un milieu extrêmement masculin. Et c'est, je dirais, le sujet, je dirais, principal du film. Alors, ça et là, on a pu voir des critiques, enfin, du moins des impressions de spectateurs qui ont été assez négatifs, parce que je pense que réellement, ils s'attendaient véritablement à un thriller. Ce fait que cette affaire touche donc un mineur qui est accusé de meurtre et de viol. Sujet extrêmement grave, affaire extrêmement grave aussi, parce que bien forcément, c'est dans la mouvance d'assises dans cette affaire. Donc franchement, le film parle de cela, mais avant toute chose, c'est quand même voilà les rapports qu'a donc cette jeune avocate et les difficultés qu'elle peut rencontrer dans un milieu extrêmement masculin. Et donc, c'est plutôt ce versant-là que Victoria Musilac aborde dans ce film. Et c'est tout à fait intéressant. En tout cas, le film m'a enchanté. Alors, on est peut-être quand même, si on peut comparer, légèrement en dessous quand même de Borgo. Mais en tout cas, pour un premier long métrage, je trouve qu'il y a quand même une belle maîtrise, une belle écriture et aussi une belle interprétation de cette jeune actrice qui est Noé Habitat, contrairement à ce qu'on peut voir à droite à gauche où on dit mais le problème de ce film, c'est l'actrice principale, elle joue mal, enfin bon. Mais tout simplement parce que il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Elle est jeune diplômée.
Oui, un peu novice.
Voilà, aucune expérience, véritablement. Oui. Et donc là, pour le coup, c'était une. En tout cas, c'était un peu programmé comme cela. C'était une simple garde à vue, à part que là, pour le coup, c'est un homicide et une affaire extrêmement gravissime. Et donc là, elle se retrouve vraiment totalement désarmée. Donc, voilà, on peut imaginer quand même. Donc cet univers policier qui manque pas de la mettre aussi dans une situation assez bancale. Donc franchement, le film est assez intéressant d'ailleurs à ce titre-là. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est une belle petite surprise en tout cas.
Parfait, eh bien merci Laurent pour ces recommandations. Donc vous l'avez compris, vous pouvez aller voir Borgo de Stéphane de Moustier, c'est le film que nous vous conseillons. Première affaire aussi hein, qui t'a vraiment intéressé, mon cher ami. Et puis bien sûr le Mangeur d'âme, si vous aimez les thrillers à la Bernard Minier. Là c'est l'auteur du Mangeur d'âme, c'est Alexis Lebsker. Et puis Le Déserteur, qui est quand même un film intéressant, qui se fait vraiment écho de l'actualité en Israël. Le Déserteur, avec un très bon comédien dans le rôle principal. Voilà pour les films de ce soir. Bah, la semaine prochaine, on vous parlera peut-être de Challengers, de Luca Guadagnino, avec Zendaya dans le rôle principal, entre autres. Et puis, y a d'autres films qui sortent aussi. On va vous en dire un petit mot dans quelques instants.
Et puis, on vous parlera aussi du film Frères, avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz.
Voilà. Donc, déjà, vous savez, on vous a fait un petit teaser, là. On vous a teasé pour la semaine prochaine. Challengers et Frères. Voilà. Et puis d'autres, hein, oui, puisque l'actualité est chargée ces temps-ci. Oui. Un petit peu de musique peut-être, avant de vous annoncer les films qui vont sortir sur nos écrans ce mercredi.
Oui. Alors, 5 minutes consacrées vraiment à 2 instants, 2 films extraordinaires, mais musicalement, c'est 2 pépites. C'est une production Andy Warhol pour 2 thèmes, enfin... je dirais inépuisable dans l'histoire du 7e art, ce n'est autre que Frankenstein et Dracula.
Dracula.
Donc on va écouter la musique de Cher pour Frankenstein et du sang pour Dracula. Donc 2 films donc réalisés par Paul Morisset, pardon. Production donc Andy Warhol, mais il y avait aussi Jean-Yann qui a mis quelques rectangulaires dans ces projets-là. Et musicalement, c'est vraiment de toute beauté. Alors, dans la distribution, on y retrouve un acteur incontournable qui est Udo Kier, qui joue le rôle, bien sûr, de Frankenstein dans l'un et de Dracula. Le premier film, donc c'est Frankenstein, hein, chronologiquement, on est en 73. Et l'autre film, Dracula, c'est 1 an après. Je me rappelle, ça c'est souvenir d'enfance, hein, ces 2 films avaient été édités à l'époque, parce qu'il y avait toute une collection, René Château, qui était donc destinée au cinéma d'horreur. Ces 2 films faisaient partie de cette collection-là.
Et les films que vous ne verrez jamais à la télévision, hein, où il y avait eu Massacre à la tronçonneuse, Maniac, et puis ces 2.
Oui, Le Crocodile de la Mort, il y avait pas mal de Tom Hopper aussi. Voilà. Ouais. Et donc là, musicalement, on doit donc les 2 thèmes, 2 thèmes très intimistes au piano, hein, de Claudio Gisi, qui a donc œuvré sur ces 2 projets.
Alors, c'est un très bon musicien, parce que tu sais qu'il avait, c'est lui qui a fait les arrangements des œuvres de Mahler pour le film de Visconti, Mort à Venise.
Oui. Et donc là, c'est vraiment 2 pépites qu'on vous propose ce soir, parce que tant c'est assez rare d'ailleurs de pouvoir se les trouver, de se les procurer. Donc on va vous en faire profiter. Les 2 thèmes romantiques, alors de ces 2 films.
Ah oui, ils sont très très beaux.
Pour Cher pour Frankenstein. Et donc du sang pour Dracula. Alors c'est des thèmes relativement courts, parce qu'ils font à peine 3 minutes, mais vraiment de toute beauté.
Travail d'orfèvre.
Allez, tout de suite, Claudio Gisi.
La musique de Cher pour Frankenstein et du Sang pour Dracula, deux films réalisés par Paul Morisset et Antonio Margheriti, avec la collaboration de Andy Warhol, des films assez audacieux pour l'époque, et mis en musique de façon magistrale par Claudio Gizzi, ou Gizzi. Voilà, deux superbes partitions. Alors, bien maintenant, il est l'heure, à 22h et bientôt 15 minutes à la pendule de RTF, de vous parler des films qui seront à l'affiche dans nos salles à partir de ce mercredi. Je vais donc laisser, comme d'habitude, la parole à Laurent. Une belle salve de films encore.
Eh bien, oui, quand même. Hein, en ce 1er mai, donc jour de fête de travail, eh bien, nous avons...
Les cinémas n'ont pas chômé, j'ai l'impression, par contre.
Eh bien, une quinzaine de films.
Hein. Ah oui, quand même.
Voilà, Alors, en sortie nationale. Ouais. Je précise quand même. Je fais un petit peu la différence. C'est que quelquefois, on annonce les sorties juste sur Limoges. Là, c'est sortie nationale. Et donc, on va commencer par un film de Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. C'est Borderline. Ce film... Alors... on va essayer de vous donner quand même quelques
le pitch, on va dire, en quelque sorte.
Au moins le pitch.
Ouais. C'est un film d'ailleurs, je crois, qui est relativement court, puisqu'il dure 1h15. Hein. C'est un film assez bref, hein, je le précise. Film espagnol.
Une histoire de deux existences suspendues à un simple bout de papier, à la décision de deux agents de la police des frontières de l'aéroport de New York. Voilà ce que raconte ce premier long, où l'on suit donc les, je dirais, les aventures de Diego et Elena, un couple. Lui est vénézuélien et elle est espagnole, et qui a quitté donc Barcelone pour démarrer une nouvelle vie outre-Atlantique.
Ouais.
Voilà, à voir. Hein.
À découvrir. Je pense qu'il y a des échos assez positifs pour l'instant sur ce film.
Alors, deux films sur lesquels on n'a pas grand-chose, mais il y a Les Cartes du Mal de Spencer Cohen et Anna Ahlberg.
Oui, c'est un film d'horreur. Là, c'est des cartes. Dans d'autres films, c'est un Ouija, un objet comme ça qui charrie comme ça des... Je m'entends plus, mais je sais pas si c'est logique. C'est logique. Non, je passe à l'antenne. Ok. Mais bon, là, c'est un film d'horreur dont on a pu voir déjà la bande-annonce.
Très bien. Crépuscule de Grégory Fair. Voilà, on ne sait pas trop non plus.
On n'a pas trop d'infos sur ce film pour l'instant.
Autre film de Nicolas Peduzzi, Est à limite.
Alors, c'est un film français.
Oui.
C'est un documentaire, je crois.
Je crois que c'est un documentaire, oui. Autre film, alors celui-ci est peut-être un petit peu plus
médiatisé.
The Fall Guy de David Leitch avec Ryan Gosling.
Ouais.
Je pense que vous avez déjà vu très certainement la bande-annonce.
Ouais. Je crois que c'est l'adaptation de la série L'Homme qui tombe à pic.
Oui.
C'est la série avec Lee Majors.
Oui. Oui.
Qui nous avait enchanté dans les années 70-80. Et donc, Ryan Gosling reprend le rôle. C'est marrant parce que dans Drive, il jouait le rôle d'un cascadeur aussi, je me souviens.
Alors là, par contre, c'est le contraste quand même avec Barbie. on découvrira The Fall Guy à partir de mercredi. Autre film de René Nader Messora et Joao Salavizza, La fleur de Buriti, là aussi qui sort mercredi. Ça se passe au Brésil, et donc la culture de soja qui entraîne le déboisement de 10 000 km² de forêt amazonienne par an. Et donc ce film, primé à Cannes dans la section Un certain regard de l'année dernière, s'intéresse au peuple Krao qui vit et dont la culture ancestrale se trouve gravement menacée. Donc c'est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Ce film nous plonge au cœur du quotidien de ces hommes, femmes et enfants, en totale symbiose avec leur environnement. Voilà. Donc, on ira très certainement le voir.
Le sujet est voilà. Intéressant.
Le western, et oui, parce qu'il y a un western quand même, qui déboule le 1er mai, c'est le dernier film de Viggo Mortensen, donc réalisé par Viggo Mortensen, et où il joue, bien sûr, dans ce film, c'est Jusqu'au bout du monde. Voilà, autre film qu'on ira très certainement voir. Donc sur les écrans Limougeaux.
Il donne la réplique à Vicky Krieps qu'on aime beaucoup. Voilà.
Autre film de Laurent Rodriguez, Même si tu vas sur la lune. On n'a pas trop d'infos sur ce film là. Un film asiatique de Shinya Tsukamoto, L'ombre du feu. Donc là aussi, mercredi 1er mai, et donc ça se passe au Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la rencontre de trois solitudes dans un bar délabré, une jeune femme vivant en recluse, un soldat traumatisé par les combats, et un gamin des rues, Chinya Tsukamoto, le réalisateur de Tetsuo, qui conclut sa trilogie de la guerre après Fire on the Plain et Killing, avec ce film minimaliste et saisissant. On découvrira donc ce film-là à partir de mercredi. Petite main, ça c'est l'autre sortie de Nessim Chikawi.
Oui, on en voit pas mal la promotion actuellement. C'est un film qui s'intéresse aux domestiques des palaces. Et on retrouve dans ce film Corinne Maziero. Voilà, donc une comédie sociale, on pourrait dire. Et, voilà, ça peut être intéressant. La bande-annonce, moi, m'a paru bien sympathique. Donc, en attendant de voir... une Corinne Maziero vraiment aux antipodes du personnage qu'elle interprète dans Capitaine Marlowe, et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que Capitaine Marlowe, bon, enfin bref.
Passons. autre film, film français d'Ali Yégané, Le silence de Cybèle, qui ça se passe dans un village de Yazidis, un groupe armé de Daesh qui massacre une famille kurde dont la mère refuse de porter l'hijab. Donc Cybèle, 13 ans, y est kidnappée et réduite à l'esclavage sexuel. Et donc l'atrocité de l'ouverture du film est vite remplacée par un quotidien ordinaire, alors que Cybèle est recueillie en France par une femme qui tente en vain de lui imposer une vie normale. Donc voilà, film grave, donc dramatique, et donc ça sera mercredi sur les écrans. Autre film de Gustave Möller, Sons, qui sort aussi mercredi. Alors là, je n'ai pas trop d'infos.
Sons, ça veut dire les fils, hein, quoi, en fait, hein.
Voilà, oui. Ce premier film en 2018, ça s'appelait The Guilty, qui avait eu droit donc à sa copie conforme américanisée sur une plateforme.
Ça c'était très bien, The Guilty.
Célèbre.
Ouais.
Et donc Gustave Möller récidive dans un thriller à huis clos. Cette fois, le cinéaste danois enferme son personnage et le spectateur, par la même occasion, entre les murs d'une prison. Gardienne pénitentiaire respectée, et va voir son quotidien bouleversé par le transfert d'un tolard condamné pour meurtre.
Ça, c'est peut-être intéressant, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé The Guilty, dont on avait fait effectivement un remake, qui était pas mal, mais enfin... en plus, il y a une bonne distribution, parce qu'on retrouve dans ce film une actrice que j'aime beaucoup, c'est Sitze Babette Knudsen. Donc, à suivre...
Un autre film français de Pascal Bonitzer, c'est Le tableau volé, qui raconte l'histoire d'un Egon Schiele qui était spolié par les nazis et qui réapparaît dans un pavillon ouvrier. Pas n'importe quel d'ailleurs, il s'agit des tournesols fanés vendus chez Christie's, 17,2 millions d'euros en 2006. Et dans le film de Pascal Bonisère, on n'est pas encore là. Il s'agit pour les pros du secteur de mettre la main dessus, de se faire mousser avant d'opérer son dévoilement. Voilà, un film peut-être assez intéressant d'ailleurs, de Pascal Bonisère.
Avec Alex Lutz et Léane Rucker.
Tout à fait. Autre film d'Antoine Rambaud, une affaire de principe. Donc mercredi sur les écrans.
C'est un film dans lequel on va retrouver José Bové. Mais en fait, José Bové qui est incarné par Bouly Lanners, en fait. Me semble-t-il. Hein. Bouly Lanners, oui, c'est marrant de retrouver José Bové dans un film de fiction, mais une fiction inspirée quand même d'une histoire vraie. Hein. Tout ça, c'est une histoire vraie. Et on retrouve également dans ce film Thomas VDB. Voilà. Voilà, ça se passe au Parlement européen en 2012. Et on, voilà, c'est filmé un petit peu comme un thriller. Ça peut être intéressant.
Et pour en terminer, le film français d'Artus, un petit truc en plus. Ouais. Film assez gonflé, mais jamais bêtement provocateur, qui est Artus, qui réussit ses premiers pas de réalisateur avec cette comédie sur le handicap. On ne va pas s'étendre sur le pitch, parce que bon, c'est un film qui est extrêmement médiatisé, à juste titre d'ailleurs, et où il y a une belle distribution, parce qu'il y a donc, bien sûr des acteurs non professionnels dans le film. Ouais. Et aussi, on y découvre Clovis Cornillac, très impliqué dans le projet, et aussi Artus, hein, qui joue aussi. Donc voilà, on a fait le tour donc, de toutes ces sorties à partir de mercredi.
Eh bien, merci Laurent pour toutes ces informations. Bon, le film à voir, hein, entre des The Fall Guy, un petit truc en plus, voilà. Bon, vous avez le choix. Mais il est l'heure, de nous quitter, mon cher ami, et on se retrouve théoriquement lundi prochain.
Oui, hein, fidèle au poste.
Voilà, aux alentours de 20h30 pour une nouvelle émission consacrée au cinéma et à la musique de film. En tout cas, pour l'heure, on va vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute des programmes de RTF et dans les salles obscures.
Oui, et qu'on précise quand même au passage que vous pouvez retrouver sur le 95.4, sur aussi Internet.
Eh oui, vous pouvez nous écouter en podcast.
Et en podcast aussi,
sur le site de RTF.
Voilà.
RTF.com.
Oui, nous réécouter. Si vous aimez l'émission, vous pouvez éventuellement nous réécouter en boucle toute la semaine, si vous voulez.
RTFlimoges.com pour nous réécouter en podcast. Et puis, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, voilà, excellente fin de soirée. Et très bonne semaine à toutes et à tous.
Bonne semaine. Salut.